Alors vous savez que je suis un peu actif sur Internet pour l'Église et je reçois souvent une question très angoissée de personnes de foi, de bonne volonté, mais qui sont absolument effrayées par une parole de Jésus dans l'Évangile qui parle d'un péché qui serait impardonnable. Alors Jésus ne dit certainement pas cela pour rien. Je vous propose d'aborder ce texte avec courage, mais aussi avec confiance, car par définition, toute parole du Christ est évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle pour nous. Alors nous avons deux versions de cette parole, dans l'évangile selon Marc et dans l'évangile selon Matthieu. Je vous propose la version selon Marc, c'est plutôt dans le début de l'évangile. Jésus va à la maison, et de nouveau la foule se rassemble, à tel point qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de la parenté de Jésus sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient « il a perdu la tête ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « il a Belzébul, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Jésus, les ayant tous appelés, leur dit en parabole « comment Satan peut-il expulser Satan ? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas se maintenir. Et si une famille est divisée contre elle-même, cette famille ne pourra pas tenir. Et si le Satan s'est dressé contre lui-même, et s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort sans piller ses affaires. S'il n'a d'abord ligoté le costaud, et alors il pillera sa maison. Amen, je vous le déclare, que tout sera pardonné au Fils des hommes, les péchés et les blasphèmes, aussi nombreux qu'ils ont blasphémé. Par contre, pour qui a blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y a pas de pardon pour l'éternité, mais il est coupable de péché éternel. Cela parce qu'il disait « il a un esprit impur ». Ô Éternel, par l'étude de nos paroles anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors la première chose, à mon avis, qu'on peut répondre à une personne qui est ainsi angoissée par cette parole de Jésus, se disant que c'en est fini de son salut éternel, eh bien c'est que si elle se pose même la question de son propre salut, c'est que certainement elle n'a pas chassé de son cœur tout Esprit Saint, et donc qu'elle n'est pas perdue. Elle n'est donc certainement pas dans cette situation du péché irrémissible et éternel. Ensuite, ces paroles données par Jésus ici, ce n'est pas simplement une leçon de théologie, ce n'est pas une simple explication sur un point particulier. Le texte nous dit que c'est une parabole. Alors ça change complètement la portée, le statut même de ces paroles de Jésus. Cela signifie que Jésus est en train de nous proposer une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'être, une nouvelle logique de vie, de pensée, de façon de faire de la théologie. Sa parabole, elle est très courte. C'est qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas se maintenir. Alors c'est à entendre comme ayant des conséquences dans notre façon de faire de la théologie, de réfléchir en éthique, jusqu'à notre propre façon de fonctionner dans notre tête, dans notre cœur, dans notre foi, dans notre propre existence. Mais d'abord, en ce qui concerne cette question du droit à la vie future, qui angoisse donc un certain nombre de personnes après la lecture de ce verset, alors qu'est-ce que cette parabole donc de Jésus nous enseigne à ce propos ? Dieu nous a donné la vie, c'est le Créateur. S'il abandonnait ne serait-ce qu'une seule personne à la mort, alors il travaillerait contre lui-même et s'en serait alors fini du royaume de Dieu, qui serait compromis par cette division entre Dieu abandonnant quelqu'un à la mort et Dieu source de vie. Ce n'est donc pas possible, il faut être logique, puisque c'est justement à cette logique que Jésus cherche à nous ouvrir à travers cette parabole et à travers ses paroles difficiles aussi. Il est donc absolument impossible que Dieu, pour quelque raison que ce soit, se mette à faire la tête contre une personne et l'envoie à la mort éternelle, ou même la laisse en état de mort éternelle, sans arrêt prendre soin de cette personne afin de la ressusciter, jusqu'à ce que cette personne, même la plus perdue de toutes les brebis perdues, nous dit Jésus, puisse revenir à la vie. Et si Dieu n'y arrivait pas, eh bien ce ne serait plus Dieu, parce que c'est le propre de Dieu d'être source de vie, d'agir face au chaos qui est dans le monde, qui est en nous-mêmes, pour faire émerger avec puissance d'abord de la lumière, et puis étape par étape, amener à faire émerger la vie et la bénédiction. C'est donc la logique que Jésus développe dans cette parabole. C'est cette logique de la grâce de Dieu qu'il introduit solennellement d'un « Amen, Amen, je vous le déclare, tout sera pardonné aux fils des hommes, aux fils et aux filles, aux enfants des hommes, des humains, les péchés et les blasphèmes, aussi nombreux qu'ils en auront blasphémé. » La logique de la parabole de Jésus, c'est que jamais nous n'aurons à craindre quoi que ce soit de Dieu, en quelque circonstance que ce soit, il est la source de la vie. Et donc nous avons plutôt tout à espérer et à attendre de lui. Et c'est précisément, nous en avons précisément particulièrement besoin de son aide, puisque par ailleurs, à la fin donc de cet enseignement, Jésus met en évidence un terrible danger qui nous guette. Une question apparemment de vie et de mort, insoluble, contre laquelle Jésus nous met en garde. C'est donc ce qu'il appelle le péché irrémissible ou le blasphème contre l'Esprit Saint. Mais là encore, cette parabole de Jésus nous vient en aide pour comprendre ce qui est en cause et ce contre quoi il nous met en garde. Un royaume divisé contre lui-même ne peut se maintenir. Ce n'est pas que Dieu serait donc à craindre, au contraire, bien sûr, mais puisqu'il s'agit donc de la perte de nous-mêmes. Le danger, c'est donc dans toute situation de division à l'intérieur de nous-mêmes, de division contre nous-mêmes. C'est cela qui est terriblement nocif, c'est cela qui est autodestructeur. Alors de quelle division en nous-mêmes parle ici Jésus? Alors à mon avis, la première division, c'est la division entre notre âme et notre corps. En effet, cet épisode fondateur de la vie de Jésus pose d'abord la question de la division en nous-mêmes entre notre instinct de survie, qui est bon, qui permet à notre être animal d'avancer et de vivre, hein, et puis notre vocation au service des autres. En effet, Jésus, on le voit dans ce récit, il est tellement accaparé par sa vocation d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, tellement occupé de soigner ceux qui ont des difficultés, des démons à l'intérieur d'eux, ou des dysfonctionnements de toutes sortes, que Jésus ne prend même pas le temps de manger. Alors sa famille n'a pas tort de s'inquiéter. Peut-être est-il hors de lui-même. Ils y voient une sorte de folie. Ce serait le cas si Jésus était divisé contre lui-même, c'est-à-dire si son âme, sa vocation, luttait contre son propre corps, le détruisant. Mais ce n'est pas le cas en réalité. Jésus ne méprise ni ne lutte contre son corps. Au contraire, son corps, ses forces, sa vie, sont soulevés par l'Esprit, pas écrasés par l'Esprit. Son corps et ses forces sont mis au service de sa vocation divine, ce qui est tout autre chose que la simple survie du corps. C'est un corps qui est vivant en abondance, vivant en étant débordant de vie autour de lui. Mais dans une autre situation comparable, Jésus explique à son ami Marthe. Ah non, c'est pas ça. Dans une autre circonstance, c'est quand Jésus rencontre la Samaritaine. Jésus ne prend pas non plus le temps de manger, le temps de discuter avec cette femme. Les disciples arrivent et disent « Mais il prend même pas le temps de manger. » Alors Jésus leur répond « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé pour accomplir son œuvre. » Donc Jésus explique là cette mise en perspective, sa vocation effectivement étant quelque chose pour lui de prioritaire. Là où sa famille voit de la folie, une division interne entre à l'intérieur de leurs fils et frères, il y a bien au contraire une unification de tout son être, son corps, son intelligence, son âme. C'est ce qu'opère l'Esprit en lui, d'unifier tout cela. Mais c'est vrai que si l'on entend bien la parabole de Jésus, il y a là un vrai danger quand même, qu'entre notre corps et notre esprit, il y ait une déchirure, qu'entre notre puissant égo et notre soif d'aimer et de servir, il y ait une déchirure, entre notre dimension fils de l'homme et notre dimension fils de Dieu, il y ait une déchirure. Mais Jésus nous appelle ainsi à une réconciliation entre ces deux dimensions. Et c'est en fait, je crois, plus naturel qu'il ne semble, parce que nous sommes faits pour cela. Simplement, ça demande un travail de réconciliation de notre âme et de notre corps. Un travail de hiérarchisation de ce qui nous anime, de l'urgence du moment. Qu'est-ce qui va être prioritaire dans le moment? Un travail de réconciliation entre ces différentes dimensions. Et l'esprit a justement un grand rôle là-dedans, car c'est l'esprit qui réconcilie les différentes dimensions de notre être, qui les coordonne. C'est pourquoi Jésus nous invite ici à nous ouvrir à l'Esprit-Saint et à réfléchir, à discerner à un moment donné qu'est-ce qui effectivement va être juste et bon. Jésus parle de cette unification de notre être à une de ses amies, Marthe, une autre femme importante donc parmi les amies de Jésus, qui souffrait d'une tension entre sa volonté de servir et puis l'épuisement de son corps. Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses en même temps. Une seule est nécessaire. » Ce que l'on peut entendre comme « l'unification de ton être est nécessaire. » L'unification de nos forces et de notre âme pour arriver à coordonner tout cela ensemble afin que ça puisse fonctionner. À ce moment-là, ce jour-là, dans l'épisode que nous lisons, mais aussi avec la Samaritaine, eh bien Jésus choisit de faire passer les besoins de son corps après les besoins de son service, de sa vocation. Mais à d'autres moments dans l'Évangile, nous voyons que Jésus renvoie les foules, renvoie même ses disciples les plus proches, pour pouvoir être seul, se reposer, se ressourcer et prier. C'est ça l'unification de notre corps. Ni l'âme contre le corps, ni le corps contre l'âme. Mais l'Esprit Saint permettant à chacun des deux de se développer et puis de faire une seule équipe. Le risque, quand on ne laisse pas agir l'Esprit faire son boulot, donc d'unification de notre être, c'est celui qu'il y ait du chaos en nous-mêmes, une division au sein même de notre royaume, comme le dit la parabole de Jésus, avec donc des problèmes d'épuisement, comme Marthe, des problèmes de perte de sens, de ne plus savoir où on en est, ou bien les deux en même temps. Alors bien entendu, c'est absolument pas la volonté de Dieu de nous voir ainsi dans la souffrance, comme s'il était tout d'un coup dans une colère noire que nous n'ayons pas laissé l'esprit nous unifier, pacifier notre intérieur, que ce serait comme une sorte d'horrible blasphème contre l'esprit. Non. Notre souffrance, notre perte de sens est alors simplement un symptôme de ce chaos intérieur. Alors les intégristes de l'époque, eux, sont tellement certains que leur vérité est la vérité même de Dieu qu'ils traitent Jésus non pas de fou, comme le fait sa famille, mais de diabolique, en voyant Jésus être en dehors de la ligne officielle du parti. Aussi bien sa famille que ses intégristes, ils refusent que Jésus soit particulier, avec une personnalité, avec une vocation particulière. Et ces deux groupes réagissent différemment. Sa famille, elle veut saisir Jésus pour le réintégrer de force dans l'unité de la famille. Et les intégristes, ils l'accusent d'être possédé de Belzébul, c'est-à-dire qu'il se prépare à l'exécuter. Parce que c'est comme ça qu'on traite quelqu'un qui suit des dieux étrangers ou qui ne suit pas le dieu à la façon des autorités. Dans les deux cas, c'est une négation, un rejet de ce que Jésus a de particulier et de sa vocation particulière. Et c'est donc une division au sein même de l'humanité entre peut-être le groupe et la personne, ou entre les personnes. Selon cette logique courante, finalement, l'union de la famille, l'union de la nation, l'union de l'Église exigerait l'uniformité des membres. Alors heureusement, la Suisse est phare des nations en montrant que nous pouvons vivre ensemble sans parler la même langue, par exemple, en ayant différents cantons, différentes communes. Alors la parabole de Jésus nous appelle donc à une autre logique que cette logique du monde, celle de l'esprit comme source de ce que chacun a de plus unique, de s'en réjouir, et de permettant aussi, l'esprit permettant aussi, d'assembler ses membres si divers, avec des vocations si diverses, en un seul corps, avec différents membres. Cette force, eh bien, c'est l'amour du prochain et c'est l'amour de soi-même, les deux ensemble, comme le propose Jésus dans le fameux sommaire de la loi, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il faut aimer les deux ». Seulement, ce n'est pas si simple. Il y a aussi des particularités d'une personne qui ne sont pas positives, mais qui peuvent relever d'une pathologie, la personne étant, comme qui dirait, hors d'elle-même, ou bien, c'est ce qu'on appelle dans l'imaginaire de l'époque, avoir un démon, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'extérieur à la personne, qui vient troubler la paix de son être, l'unité de son être. Dans ce sens, la famille et les scribes n'ont pas tout à fait tort. La question se pose devant la bizarrerie d'une personne, l'unicité, l'étrangeté, la singularité d'une personne. Seulement, la famille et les scribes ont manqué de discernement. Ce discernement que seul l'amour peut apporter. L'Esprit Saint, donc. Jésus, lui, il n'écrase pas la personne à travers ses actions, à travers ses exorcismes, finalement. Jésus délivre la personne, au contraire, de ce qui aliène la personne, de sa folie, par exemple. Et à la fin de la renvoyer libre, libre dans sa propre vie, parmi les siens, La personne n'en est alors que plus singulière. Elle, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec sa propre personnalité, sa vision, ses talents, sa vocation. Et c'est alors qu'elle peut apporter effectivement ce qu'elle a d'unique et d'irremplaçable dans le corps même de l'humanité. Mais pour les scribes, tout ce qui sort du cadre de leur vérité, confondu avec la vérité de Dieu, tout cela est démoniaque et doit donc être détruit. Mais comme le remarque l'apôtre Paul dans cette parabole aussi bien connue, dans un corps, c'est quand même pas mal qu'il y ait à la fois des yeux, des oreilles, une bouche, des mains, des pieds. Alors si les mains se mettaient tout d'un coup à couper tout ce qui n'est pas une main dans le corps, nous serions en situation de royaume divisé contre lui-même. Et ce sens serait fini du corps. C'est l'esprit seul qui peut faire que chaque membre particulier soit en forme, c'est-à-dire épanouir sa propre singularité, assumer sa propre vocation, tout en se souciant des autres membres du corps. C'est le fruit de l'esprit, nous dit l'apôtre Paul, qui fait ces deux travaux de développement de chaque membre dans sa spécificité et d'union entre les membres pour former le corps. Et il est donc vital de s'ouvrir à cela, à cette dynamique de l'esprit, volontairement et consciemment. C'est ce que me semble dire Jésus avec ce blasphème contre l'esprit, c'est tout simplement que plus on méprise le spirituel, plus rapidement c'est le chaos dans quelques personnes et dans quelques groupes humains que ce soit, à tout niveau, hélas. Alors bien sûr, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne va pas baisser les bras parce qu'on ne lui a pas coupé, bien sûr. C'est simplement un symptôme, comme la fièvre. Et donc ça me fait dire, en voyant notre monde, « Ah, que souffle l'esprit en nous, et vite !» Merci.